Dieu vous bénisse. Nous allons prier, nous allons incliner nos têtes. Frère Antonio au travail aussi. Alléluia. Merveilleux Père Céleste, c'est avec un cœur reconnaissant que nous venons à toi. Seigneur, tu nous connais, tu connais nos vies, tu connais notre force, nos faiblesses, tu connais le chemin que nous devons encore entreprendre. Et Seigneur, encore ce soir, tu veux nous le montrer toujours plus. Nous nous confions en toi. Tu vois les besoins que nous avons. Il y a pour le frère Bruno qui veut partir et pour l'autre qui soit dans le besoin, tu connais toutes choses, vraiment, les nécessités de chacun. Nous nous confions en toi, Seigneur, en toutes choses. Tu as une parole pour tout le monde. Tu es un appui pour tout le monde, pour chacun. Et tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et c'est ça que nous désirons toujours plus, Seigneur. Malgré les faiblesses, les difficultés de cette terre, tu restes toujours le Dieu fidèle, le Dieu vivant qui ne change pas et dont la parole demeure éternellement. Oui, Seigneur, encore ce soir, nous nous confions en toi pour la bénédiction, pour les cœurs qui vont se réjouir à l'écoute de ta parole. Nous nous réjouissons de ce que tu vas faire, de ce que tu fais, de comment tu l'as fait, et de ce que tu continues à faire pour maintenir en vie. Toujours et toujours plus près de toi, cette épouse de Jésus-Christ, la maintenir dans la vie et qu'elle puisse porter du fruit pour ta gloire. Merci Seigneur, bénis ta parole, bénis la lecture, parle avec nous, vivifie chaque chose, sanctifie chaque chose ce soir encore. Parce que nous le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous savons que tu es fidèle pour nous l'accorder. Merci Seigneur, à toi la gloire, honneur et adoration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Nous allons commencer la lecture de ce soir. C'est une bonne lecture. Mais nous croyons que le Seigneur va encore nous parler, parce que nous avons besoin de nous entretenir spirituellement. La fatigue n'est pas vaine, elle ne peut jamais être vaine. Le passage que nous allons faire sur cette terre, à cause de la parole que Dieu nous a donnée, la révélation que Dieu nous a donnée ne sera pas vaine. Nous allons lire l'Écriture. Nous allons lire, l'Écriture ne peut être anéantie ou détruite. Il y a plusieurs façons d'appeler cela, ce vocabulaire. Donc l'Écriture ne peut être anéantie en français. C'est presque la parole, presque pareil. Donc, nous allons lire la lettre circulaire du frère Franck, qui est donc de la lettre circulaire 59 de février 2006. L'Écriture ne peut être anéantie. Les hommes de Dieu, malgré leur haute vocation, étaient seulement des êtres humains, bien qu'ils fussent appelés Dieu. Ce qui était divin en eux était la parole au travers de laquelle ils étaient participants de la nature divine, et il en est de même pour nous. 1 Pierre 1, 3, 11. Juste après, le Seigneur dit dans Jean 10, 35, « L'Écriture ne peut être anéantie. » Anéantie. Il y a beaucoup de manières de le dire. Donc, en vérité, l'Écriture ne peut être anéantie. La vocation de Dieu et la prédestination sont définitives, sont irrévocables pour l'éternité. Ainsi nous enseignent les Saintes Écritures. Romains 8, 28 à 39, et ça, vous pouvez le noter, Romains 8, et aussi Éphésiens 1 et autres. Donc ce sont deux passages des Écritures que nous pourrions lire, mais je vais finir ce petit paragraphe. L'Écriture ne peut être anéantie parce que un jour, Noé a trop bu, Genèse 9. Il est écrit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel et c'est cela qui compta. Il demeura le prédicateur de justice. Il put être rejeté et raillé, mais pas destitué. Ou en italien, on peut dire licencié. Donc pas destitué, pas rejeté. Donc le frère, donc c'était traduit comme ça, pas destitué. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le mettre de côté parce que Dieu l'avait établi. Vous pouvez le mettre de côté, mais pas Dieu. Donc on ne peut pas le licencier ou le mettre de côté. Donc, lisons 1 Corinthiens. Le passage. Donc on a lu beaucoup de fois ce passage des Écritures. Ce que Dieu a béni, ça ne peut pas être maudit. Ça, c'est une grande assurance. Une grande assurance. C'est pour ça qu'on l'aime. Donc, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Donc, d'aucun des princes de ce monde ne l'a connu. Parce que s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montés dans le cœur des hommes. C'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen. Que Dieu vraiment bénisse nos cœurs. Il y a cette assurance. Nous parlons mystère de Dieu. Que Dieu a déterminé pour notre gloire. Avant que le monde fût. Donc c'était dans Corinthiens, mais je ne sais plus quel chapitre. Et Romains 16, 25. Romains 16, 25. À la fin du temps, le Seigneur s'est révélé à nous particulièrement. Romains 16, 25. Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère, à l'égard duquel le silence était gardé dès le temps éternel, mais qui a été manifesté maintenant et qui, par des écrits prophétiques, a été donné à connaître à toutes les nations, selon le commandement du Dieu éternel, pour l'obéissance de la foi, au Dieu qui seul est sage par Jésus-Christ, auquel soit la gloire éternellement. Amen. Avant que le monde fût, il avait déjà établi toutes choses. Voyez? Donc, ça veut dire que ce que Dieu fait, ça ne peut pas être accepté. Il y en a qui n'acceptent pas, ça peut être refusé, mais on ne peut pas le licencier, on ne peut pas le rejeter. Ça va rester là, ça va rester là. Donc ça, c'est une bénédiction, ça ne peut pas être destitué, c'est une assurance. Donc je continue. Le Seigneur lui-même a prêché en prison à ceux qui n'avaient pas cru à son message et qui avaient persévéré dans la désobéissance. De ceux-ci font aussi partie les fils de Dieu dans Genèse 6. Vous vous souvenez de ce passage, Genèse 6, où les fils de Dieu avaient pris pour femme des fille des hommes. Là, il y avait une désobéissance qui était venue à ce moment-là. Une fois dans le séjour des morts, pour le salut de leurs âmes, il était trop tard. 1 Pierre 3, 18 à 22. Ainsi dit le Seigneur. Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Luc 17, 26. Abraham ne pouvait pas être destitué. Donc faites attention, le sujet c'est l'Écriture ne peut être anéantie ou détruite. C'est ça le sujet. Donc ici le frère Franck donne des exemples pour nous faire comprendre beaucoup de choses. Abraham ne pouvait pas être destitué sous prétexte qu'il vint vers Agar et prit ensuite pour femme Ketura. L'Écriture dit: je t'ai établi père de plusieurs nations devant Dieu qu'il a cru. Romains 4, 17. L'Écriture ne pouvait pas être anéantie parce que Moïse avait pris une femme éthiopienne. Donc l'Écriture ne pouvait pas être éliminée ou détruite parce que Moïse avait pris une femme éthiopienne. aux yeux humains, aux yeux du monde, et même des religieux, même du message, sans révélation. Ça semble bizarre. On dirait que c'est comme s'il n'avait pas le droit, il ne devait pas le faire, il ne peut pas le faire, sinon il sortirait de la grâce. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais Dieu fait grâce. Dieu vraiment fait grâce et nous illumine. Vous voyez ? Donc, nous allons lire dans Romains 11, 29. Romains 11, 29. C'est un passage qui est stable, qui ne peut pas être enlevé. 11, 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir. Car comme vous aussi, vous avez été autrefois désobéissants à Dieu, et que maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde par la désobéissance, de ceci, etc. On voit que ce que Dieu a décidé demeure, car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Ce n'est pas qu'on fait ce qu'on veut. Le sens, c'est de demeurer toujours dans les Écritures malgré les opinions différentes des autres personnes. Bien des choses, peut-être que le serviteur, que le croyant peut faire, et qui peut choquer aussi, qui peut même choquer à la vue humaine. Voilà la chose. Donc c'est important. Donc c'est très important. Romains 11, 29, car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Je continue, le frère Franck écrit que l'Écriture ne pouvait pas être anéantie parce que Moïse avait pris une femme éthiopienne. Myriam et Aaron n'avaient aucun droit de parler contre le frère Moïse. Aussi, Corée, Dathan et Abiram, les contempteurs, on dit aussi ceux qui méprisent, n'avaient aucun droit de destituer Moïse. Vous vous souvenez? Ils voulaient l'enlever. Ah, tu nous as fait venir ici pour le faire mourir. Alors ils ont fait un veau d'or. Et puis, on veut être guidé par une autre personne et pas toi. Vous voyez? Mais comment est-ce qu'on pouvait enlever Moïse? C'est comme aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut enlever le frère Branham? Comment est-ce qu'on peut enlever le frère Franck? Vous voyez? C'est quand tu décides. Vous croyez avec le Seigneur. Quand toi et moi, avec le Seigneur. Mais ce n'est pas avant. Personne ne peut décider de cela. Donc, les contempteurs, ou bien ceux qui méprisent en italien, les mépriseurs, n'avaient aucun droit de destituer Moïse. De destituer Moïse, de dresser toute l'assemblée contre lui et de provoquer une division. Nombre 16. Nous voyons comment le Seigneur, l'Écriture ne peut être anéantie. On ne peut pas. Donc je dis ceci. Si le Seigneur nous a révélé, il nous a élus avant la fondation du monde, il nous a appelés, et parce qu'on a accepté son nom, parce qu'on est fils et filles de Dieu, cette chose ne pourra jamais. Donc c'est important, le frère Patti est arrivé. Donc c'est important. L'unique chose, c'est que toi tu dois marcher continuellement en nouveauté de vie, allant de valeur en valeur, comme dit l'Écriture, de révélation en révélation, obéissant à la parole de Dieu, afin que le Seigneur se réjouisse du choix que lui a fait. Alléluia. Lisons Actes des apôtres. Actes. C'est là qu'on voit le mot, mais ce qui méprise. Actes chapitre 13, verset 41. Actes 13, 41. Donc il y avait une opposition. Voyez, contempteurs, vous l'avez ? Étonnez-vous et soyez anéantis, car moi, je fais une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez point si quelqu'un vous le racontait. C'est une parole profonde. Parce qu'il s'agit de maintenant. C'est une chose que Dieu fait maintenant. Dieu a permis que nos yeux s'ouvrent. Ce n'est pas seulement le passage de l'Église catholique, la révélation directe de Jésus-Christ, avec la Pentecôte, la révélation de Jésus-Christ direct, le baptême au nom de Jésus-Christ, parce que c'est une révélation. Mais tout le reste aussi, pour nous faire entrer dans la restauration, pour nous faire voir comment on a besoin d'être complètement renversé, complètement démoli pour vivre vraiment Christ. Et là, il s'agit de cela. Et on continue ici. Donc tout ça, c'est important. Sinon, on ne pourra pas. Nous, on ne peut pas se confier dans un homme. Parce qu'à la première occasion, on s'est salé alors. On dit voilà, toi, tu ne me plais plus. Tu es devenu un peu bizarre, t'es comme ça. Et voilà, non. Donc ça. Donc, Dieu ne permettra jamais cela. Donc on continue, la lettre circulaire 59, toujours de février 2006. On continue. Donc c'est toujours la même chose. L'écriture ne peut être anéantie parce que David a commis un adultère. Donc je relis. L'écriture ne peut être anéantie parce que David a commis un adultère. Dans la loi, Dieu n'a pas du tout parlé de polygamie. Il a seulement dit s'il en prend une autre. Faites bien attention aux paroles. S'il en prend une autre. Exode 21, 10. Et ça, on peut le lire. Et il a aussi dit si un homme a deux femmes, etc. Dans Deutéronome 21, 15. Mais le Seigneur dit, mais le Seigneur Dieu a dit par contre, si un homme a été trouvé couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. Vous voyez la différence? Il y a une différence très grande. Parce que Dieu a vraiment préservé le mariage. Et ça, c'est important. Parce que vous connaissez, on l'a toujours dit, ça a rapport avec l'Église et l'époux Jésus-Christ. C'est ça l'image. Dès le commencement, on l'a déjà dit beaucoup de fois, vous le savez déjà, cette chose. Je ne vais pas le répéter. Donc maintenant on lit, on continue. Et ensuite, Exode. Et retournons par après. Mais le Seigneur Dieu a dit, par contre, si un homme a été trouvé couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. Deutéronome 22, 22. Le mariage est sous la protection particulière de Dieu. Donc c'est important. David avait commis adultère. Il devait être lapidé à travers la loi. Avec Bathsheba. Il avait transgressé deux commandements. Ne tue pas et ne commets pas adultère. David a été adultère parce qu'il avait pris la femme de Uri. David est un assassin parce qu'il avait tué le mari. Vous voyez? Donc là, il méritait la mort. Vous voyez? Donc, clair et net, il méritait la mort. Alors, regardez un peu. Lisons Exode. Exode 21, 10. On se réjouit de lire les Écritures. Mais Dieu nous aide à vivre aussi. Et dire, et en fait, qu'on puisse dire, oui, Seigneur, c'est toi qui as raison. Être ancré dans la parole, ça qui compte. Donc, Exode 21, 10. On va commencer au verset 7. Et si un homme vend sa fille pour être servante, elle ne sortira point comme sortent les serviteurs. Si elle déplaît aux yeux de son maître, qui se l'était fiancé, il la fera racheter. Il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après l'avoir trompé. Et s'il la fiancée à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il en prend une autre, il ne retranchera rien pour elle à sa nourriture, à son vêtement et à son droit conjugal. Peut-être qu'il y en a qui ont cru que c'était la polygamie. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses-là, elle sortira gratuitement sans payer aucun argent. Alléluia. Vous voyez comment toute chose est à sa place? Deutéronome 21.15, on l'a tout près. Deutéronome 21.15. Si un homme a deux femmes, l'une est aimée et l'autre haïe. Voilà, on parle toujours de ce qu'on a dit dans le passé. De toutes ces lettres circulaires qu'on a lues dans les réunions passées. Donc il y avait au commencement c'était pas comme ça, mais Dieu a autorisé ça. Donc c'est important. Donc si un homme a deux femmes, l'une aimée et l'autre haïe, et qu'elle lui est enfantée des fils, tant celle qui est aimée que celle qui est haïe, et que le fils premier-né soit de celle qui est haïe, alors le jour où il fera hériter à ses fils ce qui est à lui, il ne pourra pas faire premier-né le fils de celle qui est aimée. Donc ici, on voit comment Dieu prend toute chose. Et on revient toujours à cette parole qui dit que la parole ne peut pas être anéantie. Comprenez? Donc on parlait que David avait fait deux péchés. Un, c'est l'adultère, parce qu'il y avait la femme qui disait, et l'autre, c'était l'assassinat. Donc, en tuant le mari. Maintenant, je continue à lire. Grâce à Dieu, je ne suis ni l'un ni l'autre. Donc ça, c'est le frère Franck. Voilà, grâce à Dieu, je ne suis ni l'un ni l'autre.
La scrittura non può essere infatti perché qui adesso non che dice questo, perché lui prenderà esattamente quello con poco abbiamo letto che.
Donc voilà. Donc ici on prend toujours le passage d'écriture et on voit un peu ce qui s'est passé à Christian. L'écriture ne peut pas être anéantie. David est resté prophète. David est resté roi. Et ce qui a été dit en esprit s'est accompli. Ça s'accomplira toujours. Toutefois, ce qui reste, ce qui demeure, est que Dieu a présenté une Ève à Adam. Et comme Paul l'a dit, que chacun est sa propre femme et chaque femme son propre mari. 1 Corinthiens 7, verset 2. Voilà. Parce qu'ici, un peu plus loin, le frère Franck, il va parler aussi d'autre chose. Comment Dieu pardonne, il fait grâce. Vous voyez? Toutefois, l'écriture ne peut pas être brisée. Dieu a présenté une Ève à Adam. Et comme Paul l'a dit, que chacun est sa propre femme et que chaque femme son propre mari. Donc je dis ceci, que le Seigneur nous aide. Chaque église, comme on l'a toujours dit, la femme représente une église. Et l'église doit avoir un seul Seigneur, un seul époux, pas 50. Vous comprenez? Une seule direction. On peut avoir 10 églises, 20 églises dans un pays, mais que chaque épouse est son mari, et chaque mari est son époux. Chaque mari est son épouse. Et je dis, c'est vrai, Seigneur. Voilà pourquoi tout le monde est dans la guerre, dans la lutte. Parce que chaque église a son propre mari. Vous comprenez? Sa propre direction. Son propre époux. Mais c'est pas comme ça, ça doit pas être comme ça. À cause du cœur méchant. À cause des divisions, à cause des problèmes. Il y a toutes ces choses-là. Donc il y a des directions différentes qui sont prises. Donc c'est important. Il y a un seul Dieu, un seul époux, un seul Seigneur. Je continue à lire le frère Franck ici. Mais qui est l'homme qui voudrait condamner David et ne pas lire les psaumes alors qu'il est écrit « Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas iniquité » Psaume 32, 2. Le pardon est tellement parfait que le Seigneur ne se souvient plus des péchés. C'est des péchés. L'adultère, c'est la mort. Le pardon est tellement parfait que le Seigneur ne se souvient plus des péchés. Celui qui expose à la risée les transgressions de la loi d'une autre personne blasphème contre Dieu et foule au pied le sang de l'agneau. Faites attention à cela, c'est profond. Que Dieu nous aide. Le sang de l'alliance et l'expose à l'ignominie Christ le crucifié. Amen. Dans la vie naturelle, les serviteurs, regardez un peu combien de paroles ont été dites. Combien de paroles ont été dites à cause des différents problèmes dans les églises, que ce soit en Afrique, en Italie, en France, en Belgique, partout. Vous voyez combien de choses, combien de paroles vaines, au lieu de regarder les Écritures, qui ne peut jamais être anéanties, jamais être réduites. Voilà pourquoi le frère Branham, encore une fois, je répète, il a dit clairement: vous êtes pardonné. Dieu a apporté le pardon. Le pardon, c'est une révélation. C'est important. Donc le frère Franck ici continue. Celui qui expose à la risée les transgressions de la loi d'une autre personne blasphème contre Dieu et foule aux pieds le sang de l'agneau, le sang de l'alliance, et expose à l'ignominie le Christ le crucifié. Dans la vie naturelle, les serviteurs de Dieu n'ont pas toujours réussi à être trouvés dans la parfaite volonté de Dieu, celle qui lui est agréable. Celle qui lui est agréable. Sinon, ce ne serait pas nécessaire qu'il soit venu sous la forme humaine pour racheter les humains, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà pourquoi il n'y a pas un homme de Dieu qui ne soit pas tombé, qui n'est pas une imperfection. Parce que le seul parfait, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, dans la chair. Donc il est parfait, c'est la parole qui est parfaite. La parole est parfaite. Amen, vous comprenez? Vous avez compris? L'homme est imparfait, mais la parole est parfaite. Amen, alléluia. Si. Et alors, le frère Franck le dit, c'est plus loin. Et c'est normal. Voilà pourquoi ce qui plaît à Dieu, je vais lire un autre passage après, et vous pourrez, on l'a déjà lu, on le sait, mais il faut bien comprendre la parole à propos. Lisons 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. C'est pas seulement Paul, mais c'est toi et moi. C'est nous tous. On est ceux-là qui continuent à marcher en s'efforçant toujours à marcher dans la réalité divine pour faire plaisir à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Important cela. Il a dit 1 Corinthiens 13. Non, excusez-moi, c'est bien Dieu. 2 Corinthiens. Et afin que je ne m'enorgueillisse pas, attention, ça, c'est une chose qui reste dans notre cœur, que ça reste dans notre cœur, et qu'on crie à Dieu pour nos imperfections, nos faiblesses, et pour nos incapacités, et on dit, Seigneur, viens-nous en aide. Vous voyez, c'est important. Et afin que je ne m'enorgueillisse pas, à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas. Vous voyez pourquoi au Seigneur il lui plaît de des fois il arrive aussi qu'on n'est pas dans la parfaite volonté de Dieu. Donc je continue à lire ici le frère Franck. Alors c'est toujours le verset. Paul dit un ange de Satan pour me souffleter afin que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, j'ai supplié 3 fois le Seigneur afin qu'elle se retira de moi. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Que Dieu bénisse nos âmes. Quelle profondeur. Comment est-ce qu'on ne peut pas aimer notre Dieu? Comment est-ce qu'on ne peut pas le voir? Son immensité, sa gloire, il traite avec nous. Il ne regarde pas la chair. Mais regarde la parole à l'intérieur de nous. Amen, vous avez compris ça. Parce que la parole dit, des fois je veux faire ta volonté, mais des fois on tombe. Et on sent la faiblesse qui vient. Afin qu'elle se retienne. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Amen, alléluia. Je me glorifierai donc très volontiers, plutôt, dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, etc. Donc, et c'est ça qui plaît à Dieu. Donc, je relis le frère Franck qui écrit ici. Dans la vie naturelle, les serviteurs de Dieu n'ont pas toujours réussi à être trouvés dans la parfaite volonté de Dieu. Celle qui lui est agréable. Celle qui lui est agréable. Regardez, regardez David. David était un homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? C'est écrit. Alléluia. Et pourtant, il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il ne devait pas le faire. Vous voyez comment des fois on se laisse aller comme ça. L'ennemi vient, il nous influence d'une certaine manière et on pense qu'on peut aller au... On peut passer par-dessus, mais non, non. Dieu pardonne, mais il ne passe pas au-dessus de la chose. Dieu pardonne, mais il te fait voir la chose. C'est important qu'il te fait voir la chose. Amen. Je continue à lire ici. Donc la lettre circulaire. Il arriva aussi la volonté permissive de Dieu. Mais la parole qu'ils ont reçue et qu'ils nous ont laissée est pour toujours et éternellement la parfaite parole de Dieu. Dieu qui savait toutes choses d'avance a prononcé à chaque fois la vocation ou la tâche, a prononcé à chaque fois la vocation. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, porte le titre honorifique de Fils de David. Quel est l'homme qui s'arroge le droit de mettre en question les décisions de Dieu? Les décisions que Dieu a prises en rapport avec David, de le laisser sur le trône. Et d'y être, et qu'il y ait toujours quelqu'un selon le cœur de Dieu, et d'être même un prophète. Vous voyez un peu les choses. Une telle personne est soit possédée, soit rejetée par Dieu. Faites attention à cela. Ce sont les contempteurs, ceux qui méprisent, desquels la Bible dit dans Actes 13, 41, c'est écrit, « Voyez contempteurs et étonnez-vous. » Et soyez anéantis. Car moi, je fais une œuvre en vos jours. Et on a lu cela, que oh, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, etc. Donc ce n'est pas les choses c'est pas de l'intelligence humaine, ça vient directement de Dieu, ça doit venir directement de Dieu. Parce qu'un homme, c'est un pécheur. Un homme, il est né dans le péché. Donc, s'il y a quelque chose qui le transforme, qui le change, ça doit venir obligé de Dieu. Amen. Ça ne peut pas venir d'un homme. Ça, c'est très important. C'est de cette œuvre de Dieu qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de cette œuvre de Dieu qu'il s'agit aujourd'hui. Même si l'ennemi voudrait l'empêcher de toutes ses forces. Et il cherche à le faire. Ça, je le dis moi. Jésus est vainqueur. Il ne permettra pas que la vraie Église soit vaincue par le port de l'enfer. Les contempteurs trouvent toujours un prétexte et se soulèvent contre celui que Dieu a destiné à un ministère. Et encore aujourd'hui, ils disent « Toute l'Assemblée est sainte ». Vous voyez ça, on dit toujours comme ça, « Toute l'Assemblée est sainte ». Mais pourtant, ce n'est pas comme ça. Vous voyez? Donc, j'avais noté ici quelque chose. Que Dieu nous bénisse. Jamais aujourd'hui. Donc, c'est moi qui avais lu ma note. C'est moi qui avais noté une réflexion. Jamais comme aujourd'hui, le triomphe de Dieu n'a été si manifeste à travers sa parole révélée de Malachie 4:5. Et la restauration, c'est la restauration, c'est le vrai amour manifesté que beaucoup ne trouveront pas. Beaucoup n'arriveront pas à trouver cela. Beaucoup ne vont pas trouver cette relation entre Christ et la parole. Pourquoi? Parce que vraiment, dans la restauration de Malachie 4:5, Dieu a fait retourner vraiment ceux qui l'ont vu, vécu. Donc un vrai amour, il a fait tourner le cœur vers les pères apostoliques. Un vrai amour net, sincère. C'est ça que Jésus a fait maintenant. C'est ça qu'il a fait maintenant. Vous y êtes? Vous avez compris? Non, le message de l'heure, la parole qu'on lit, les lettres circulaires qu'on lit, c'est-à-dire ce que Dieu a établi, c'est un triomphe pour Dieu, pour donner gloire à Dieu, de comment il se manifeste, comment il s'est manifesté dans ces derniers temps. Beaucoup de personnes vont rester en arrière. Ils n'arriveront pas à arriver à cet amour. L'amour, c'est pas l'amour charnel. On a déjà parlé de cela. Donc c'est quelque chose de glorieux. Matthieu 16, 18. La parole révélée qui te restaure donne la révélation juste et ça te ramène au commencement. Là, c'est de là qu'est tombée la première église, l'église d'Éphèse. Elle a perdu le premier amour. Et ce premier amour, Dieu l'a rétabli. Maintenant, c'est toi et moi qu'il faut rattraper cela. On l'a toujours dit. Et plus vite on arrive à cet amour, et je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, plus vite le Seigneur revient. Plus vite on arrive à cet amour, et plus vite on rentre à la maison. Parce que Jésus ne veut pas qu'aucun se perde. Tous ceux que lui a choisis, il veut qu'ils arrivent tous à la maturité pour pouvoir vraiment arriver à cet amour parfait. Amen. Un amour qui va au-delà d'une pensée humaine, au-delà. David. Oh toi, tu as péché, tu ne peux plus régner sur nous. Ça, c'est l'esprit pentecôtiste dénominationnel. L'accusateur. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas été restaurés. Ils n'ont pas compris la vraie grâce de Dieu. Ils ne sont pas rentrés dedans de cette restauration. Le vrai pardon, un vrai pardon total. Donc c'est un triomphe que Dieu a fait. Quand j'ai lu ça, j'ai dit. Donc jamais le triomphe de Dieu n'a été aussi manifeste entre sa sainte parole, avec sa sainte parole de Malachie 4:5. La restauration, le vrai amour manifesté que beaucoup ne trouveront pas, n'arriveront pas à trouver. D'après vous, il y en a beaucoup qui l'ont trouvé, d'après vous? Donc, c'est peut-être vous me pouvez Vous pouvez allumer votre micro. Beaucoup n'ont pas trouvé le vrai amour. Si on marche tous ensemble, on marcherait tous ensemble si on avait tous le même amour. Tous ensemble. Il ne pourrait jamais y avoir des détachements, des divisions. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés, dit l'Écriture. Je ne me trompe pas. Amen. C'est seulement l'orgueil, l'empêchement, c'est ça qui empêche. C'est-à-dire, je veux être quelqu'un. Quelqu'un qui veut être spécial par rapport aux autres. Voilà comment se fait la distanciation. Et c'est pour ça qu'ils ne trouveront pas l'amour. Mais le vrai amour, Dieu nous l'a donné. Dans le message du temps de la fin, dans les prédications, dans la parole, ce message que Dieu nous a donné, on l'a entendu, en 1933, ce message préparera ma seconde venue. Et sans l'amour parfait, personne ne peut entrer. Alléluia. On peut même s'étendre sur ce sujet. Mais ça, pour moi, c'est important. Et même dans Romains, dans 5:20. On va aussi donner un coup d'œil à Romains 5:20. Romains 5:20. Alléluia. Or la loi, vous l'avez, Romains 5:20. Or la loi est intervenue afin que la faute abondât. Attention à ces paroles, réfléchissez, que Dieu nous aide à bien considérer ces paroles profondément. Or la loi est intervenue afin que la faute abondât. Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Là. Pourquoi la loi a été donnée? La loi a été donnée pour nous faire reconnaître que tu es pécheur, que nous sommes pécheurs. On est simplement sauvé par grâce. Alléluia. Voilà pourquoi la loi a été donnée. Mais la grâce va au-delà de cette loi. De cette loi rigoureuse, comme une barre de fer. Vous comprenez l'image? Une barre de fer. Non, la grâce est molle, elle est douce. L'amour est tendre, sensible. Et tu le sens. Il n'y a pas une opposition. Alléluia. Amen. C'est glorieux, mes amis. Croyez-moi. C'est glorieux ce que le Seigneur a fait dans ce message. On ne se rend même pas compte des fois. L'enseignement, tout ce qui a été remis sur le chandelier, cette église d'Éphèse du début, qui était la première chose, la chose que le Seigneur reprochait, c'est parce qu'il s'était éloigné du premier amour, s'était refroidi. Voilà pourquoi il fallait un message avec un messager. Voilà pourquoi il fallait un Ewald Frank pour remettre toutes choses en... C'est un puzzle, toutes choses a été remises en ordre. Donc le prophète, il jette la parole, il lance la parole comme ça. Mais le puzzle, il est là. Et alors, il faut qu'il soit reconstruit. Mais c'est toujours des hommes. Mais le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est introduit dans la révélation. Dans la révélation. Je continue à lire ici. Que Dieu nous aide. Je continue à lire ici. Donc, le frère Franck avait écrit ici la lettre circulaire 60 de avril 2006. Dans le domaine spirituel, il y a des tromperies qui ont des conséquences qui ne peuvent jamais être réparées. Voici un tragique exemple. En janvier 2006, un frère est venu, après qu'il ait lu la lettre circulaire, et il me dit... Hier, il y a 10 ans, en janvier 1996, Dieu aurait dit d'une voix haute et clairement, ouvrez les guillemets, parce que, donc c'est un homme qui dit ça, hein, c'est un homme qui dit ça, qui a été voir le frère Franck, qui lui dit ça, Parce que tu ne t'es pas séparé de lui autrefois, donc c'est pour une femme, parce que tu ne t'es pas séparé de lui maintenant, c'est moi qui te sépare de lui et tu vivras. Voilà, fermez les guillemets. Et par cette parole, frère Franck écrit, une mère exigeait de sa fille la séparation avec son mari, afin qu'en conséquence, elle soit guérie du cancer. Imaginez un peu. Donc, une soi-disant prophétie est venue. Cette prophétie, elle était là. Voilà. Donc, voilà. La prophétie est arrivée. Et cette femme, donc le mari ne voulait pas se séparer. Elle s'est séparée. Non, on va le dire. Par cette parole, une mère exigeait de sa fille la séparation avec son mari, afin qu'en conséquence, elle soit guérie du cancer. Où donc Dieu a-t-il jamais élevé une telle condition pour la guérison? Faites attention à cela. Où, regardez, le mariage a été est protégé, voilà, particulièrement. Regardez un peu, quelle prophétie peut venir pour détruire la parole de Dieu? Vous comprenez ce qui s'est passé? Quel type de prophétie, quel esprit peut venir pour détruire la parole? La parole de Dieu elle-même, c'est impossible, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors regardez un peu comment Dieu doit nous faire grâce pour avoir le discernement des esprits et marcher par les Écritures. Donc je continue ici. Le frère Franck a écrit, où donc Dieu a-t-il jamais élevé une telle condition pour la guérison? L'Écriture, elle, enseigne bien que c'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53 et autres. La procédure, donc j'ai noté ici que la procédure de divorce, donc c'est pas de Dieu. Alors le frère Franck continue. La procédure de divorce fut donc introduite par l'avocat, mais l'homme se refusa à accepter les termes de divorce en novembre 1997 lors du jugement, et la femme mourut en décembre, sans s'être réconciliée. Donc elle s'est éloignée. Le divorce. Mais donc, entre-temps, elle est morte. Et donc, le frère Franck, il insiste sur la réconciliation. Attention, hein. Mais la vraie qui vient du cœur. Juste, alléluia. Il y tient à la réconciliation. Donc, je ne dis pas ça pour élever un homme. Mais son esprit, sa manière de dépeindre les choses, lui, il tient beaucoup à la réconciliation. Voilà pourquoi il écrit. Donc la femme mourut en décembre sans s'être réconciliée. Depuis ce temps, le reproche lui est fait. Donc depuis ce temps, le reproche lui est fait. Deux points. Son mari est fautif de sa mort, soi-disant, parce qu'il a refusé le divorce qui était exigé par cette soi-disant, ouvrez le guillemets, cette soi-disant voie. Vous avez compris. Quelque chose de pire, le diable ne peut le faire penser. Donc l'homme se sentait accusé de sa conscience, il se sentait condamné. Mais qui ne sentirait ça? Qui ne se serait pas senti touché dans son cœur? Si on croit ces choses-là. Bon. Donc quelque chose de pire, le diable ne peut le faire penser. Le divorce est l'œuvre de destruction de Satan. Et entraîne avec lui des souffrances indicibles à toute la famille. Et ce n'est absolument jamais cela qui peut contribuer à la guérison. Vous voyez comment le Seigneur peut briser sa propre parole? C'est pas possible. Alors j'ai à l'esprit quelque chose. Dites-moi un peu, écoutez. Oui, il l'a fait avec l'amour. Donc c'est ma manière de m'exprimer. Il l'a fait avec l'amour. Mais il n'a pas détruit la parole, il a complété la parole. Vous comprenez? Avec la grâce. Alléluia. Quelle bénédiction. Amen. C'est donc contribuer à l'évangile. Selon Malachie 2,16, c'est un acte de violence qui est encore recouvert d'un manteau de piété. Attention. Même dans l'Ancien Testament, Dieu n'a autorisé l'homme à donner à sa femme une lettre de divorce qu'en cas exceptionnel. Toutefois, jamais une femme ne peut donner à son mari une lettre de divorce. Ainsi dit l'Écriture. Il est urgent de recommander à tous ceux qui respectent le ministère de Frère Branham de lire enfin ce qui lui a été révélé par Dieu sur le thème du mariage et de l'utiliser personnellement pour soi-même en harmonie avec l'Écriture. Amen. Vous y êtes? Donc, quelle grâce Dieu nous a faite. Amen. De pouvoir lire ces choses, de pouvoir dire Amen, les approuver et sceller ces paroles dans notre cœur. Amen, n'est-ce pas? Moi, je dis oui. Amen. Vous voyez? On continue la lecture. Satan, le séducteur, dans le jardin d'Éden, a fait tourner la tête à la première femme. Et par cela, il a commencé à mettre en doute la parole de Dieu. Il y a une fausse inspiration. Là où tout est adapté à la situation. Comprenez cette phrase? Aujourd'hui, plus que jamais, on peut comprendre ces paroles. Au commencement, on était le message de l'heure, la connaissance du message, était au commencement, c'était comme une barre de fer. Tu dois faire ça. Les femmes doivent avoir toutes les cheveux longs, les robes. Voilà, il martelait. Les robes longues. Vous voyez, il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de grâce à l'époque, n'est-ce pas? Vous comprenez ça? Voilà. Moi, je sais de quoi je parle. Vous voyez? Un martèlement continuel. Je continue à lire ici. Donc, il y a une fausse inspiration là où tout est adapté à la situation. Jérémie 23, Ézéchiel 13 et autres. De telles personnes peuvent être totalement sincères et avoir à leur manière de bonnes intentions. Mais aussitôt qu'elles suivent leur propre volonté, elles se soumettent à l'influence de celui qui se trouvait le plus proche de Dieu. Donc le frère Franck nous fait comprendre ici, il nous dépeint une situation ici. Donc dans le sens qu'il y a une mauvaise inspiration qui vient de Satan. Donc ces paroles se soumettent à l'influence de celui qui se trouvait le plus proche de Dieu, le chérubin Ouin. Le fils de l'aurore se dit à lui-même, je monterai aux cieux, je ferai ceci, je ferai cela. Ésaïe 14, 12 à 14. On connaît ces passages, on les connaît. L'élévation de soi-même, la volonté de dominer et d'établir son propre trône et ainsi d'être semblable à Dieu, attira la chute après soi. Après la chute dans le péché, dans le ciel, suivit la chute dans le péché sur la terre. Satan, qui était tout d'abord un chérubin ouin, a, avec de sa grâce de serpent, séduit Ève. Voilà, une grâce de serpent. Voilà. Il a passé à travers le serpent, il est rentré dans le serpent. À un certain moment, il a pris possession de... Allez. Avant, cette bête n'était pas possédée. Mais après, oui, à un certain moment, il a été possédé. Et c'est là qu'il est devenu le serpent dont on parle, que nous connaissons. Donc c'est important. C'est important cette parole. Elle se soumet, ces personnes, à l'influence de celui qui se trouvait le plus proche de Dieu. Voilà pourquoi les vrais conducteurs, les vrais frères, anciens conducteurs, doivent faire attention. Parce que même pour eux, il peut y avoir cette influence. Et s'ils ne sont pas vraiment gardés par l'Esprit de Dieu, s'ils ne sont pas conduits dans la direction, dans la volonté de Dieu, eux aussi peuvent tomber. Il faut qu'ils se gardent de cela. Vous voyez, toujours être le plus proche de Dieu. Vous voyez? Vous comprenez? Vous avez compris ce que je veux dire. Alléluia. Que Dieu vraiment nous bénisse. Donc c'est important de comprendre. Psaume 119. Psaume 119, verset 113. Psaume 119, 113. quand vous vous souvenez, on avait lu sur Saoul. Donc, parce qu'on va encore parler un peu plus loin de Samuel. Quand Saoul a voulu offrir des sacrifices, il n'a pas attendu le prophète. Vous voyez, vous vous souvenez de Samuel? Il n'a pas attendu. Parce qu'on avait lu, il perdait du prestige. Et là, on va encore le lire ici. Le frère Franck va encore en parler. Il perdait du prestige envers le sien. Il perdait l'autorité. Et donc, il a dû agir d'une manière erronée pour pouvoir maintenir une certaine, comme on l'a vu ici, une certaine prestance, une certaine élévation de soi, comme le frère Franck a écrit. La volonté de gouverner, de dominer et d'établir son propre trône. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose. David était un homme, il a péché, mais il était selon le cœur de Dieu, il était sincère. Parce que quand Nathan était là, donc il a raconté l'histoire de la brebis, directement il a dit, cet homme mérite la mort, n'est-ce pas? Souvenez de ça. Cet homme-là mérite la mort, il doit mourir. Et quand Nathan, mais cet homme c'est toi, aïe aïe aïe. C'est là qu'il est rentré vraiment dans la lutte, dans une lutte, c'est-à-dire... Il a compris, il a réalisé que c'est lui qui avait fait une chose qu'il ne devait pas faire. Et voilà pourquoi Dieu savait déjà que cette chose serait arrivée. À la différence de Saoul, à la différence de Saoul. Donc, psaume 119, 113. J'ai eu en haine ceux qui sont doubles de cœur, roi des cieux en italien, mais j'aime ta loi. J'en haine ceux qui sont doubles de cœur, indici. Ce sont des gens qui ne sont pas sincères. Qui ne sont pas sincères. La sincérité, la sincérité. Il y a quelque chose, il faut être vrai, il faut être véridique, véritable. Un cœur double, ici, dans la Bible d'Arbi. Qui sont doubles, et dans la Mengue, un cœur double, d'Arbi, qui sont doubles de cœur. 1 Timothée 1, 5, regardez un peu comme ça colle bien, 1 Timothée 1, parce que si l'homme manque de sincérité, la séduction est arrivée. C'est la sincérité qui est nécessaire. Un premier épître à Timothée. Excusez-moi. Oui, c'est ça. 1 Timothée 1:5. Oui, 1 Timothée 1:5. 1 Timothée 1:5. Or, la fin de l'ordonnance, c'est l'amour. Vous avez bien compris, vous êtes tous. Qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience. Et d'une foi sincère ou non feinte, desquels quelques-uns s'étant écartés ou déviés se sont détournés à un vain babil, voulant être docteurs de la loi, n'entendant ni ce qu'ils disent, ni ce sur quoi ils insistent, ni ce qu'ils ils affirment. C'est vraiment précis, c'est ce que le frère Franck veut dire ici, exactement. Mais nous savons que la loi est bonne si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés, les rebelles, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété, les profanes, les batteurs de père et les batteurs de mère, pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures. Et s'il y a quelque autre chose qui soit opposée à la sainte doctrine, suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, qui m'a été confié. Alléluia. Donc, on voit comment le cœur doit être sincère, vrai, véridique. Alors Satan ne peut rien faire. Il ne pourra rien faire. Il ne peut pas faire grand-chose. Et aussi, dans 2 Timothée, un peu plus loin, 2 Timothée, et aussi 1:5, 2 Timothée 1:5 aussi. Non, répétons le verset On peut commencer au 3. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers dès mes ancêtres avec une conscience pure, de ce que je me souviens si constamment de toi dans mes supplications, nuit et jour, désirant ardemment de te voir, me souvenant de tes larmes, afin que je sois rempli de joie, me rappelant la foi sincère, non feinte, sincère, qui est en toi, et qui a été d'abord, et qui a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. Et j'en suis persuadé en toi aussi. Amen. Alléluia. Donc il faut s'identifier à ces paroles. Alléluia. Vous comprenez? Que Dieu vraiment nous donne un cœur pour pouvoir recevoir chaque parole de Dieu. Chaque parole de Dieu. Alléluia. Et Isaïe, je lis encore ce passage, Isaïe 48. Et Isaïe 48, 1. Isaïe 48, 1. Écoutez ceci, maison de Jacob. Vous qui êtes appelés du nom d'Israël et qui sortez des eaux de Juda. Et si je peux en parler toute la nuit. Vous qui êtes appelés du nom d'Israël et qui sortez des eaux de Juda, qui jurez par le nom de l'Éternel et faites mention du Dieu d'Israël, mais pas en vérité ni en justice. Vous voyez, comme il est écrit, cette parole m'honore de leur parole, mais leur cœur est loin. N'est-ce pas? Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce qu'il n'est pas sincère. Il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas la juste prise de position pour pouvoir accepter tout ce que Dieu nous dit. Alléluia. On continue. Donc, le frère Franck avait écrit, on continue ici. C'est ainsi que par sa conversation, pleine d'onction sur ce que Dieu avait dit, il l'a conduite, donc Ève, il l'a conduite à faire sa propre volonté. Voilà. Donc de Satan. Hein. Donc c'est ainsi qu'à travers, que par la conversation de Satan, sa conversation pleine d'onction sur ce que Dieu avait dit, il a conduite Ève à faire sa propre volonté. Ce qui est sorti de cette désobéissance est jusqu'à aujourd'hui considéré par Dieu comme le péché de divination. Et l'obstination l'est comme une idolâtrie. 1 Samuel 15, 22 et 23. Et ça, je crois qu'on a, on a déjà lu ça, beaucoup de fois. Regarde un peu ça. Donc même l'obstination, être entêté, têtu, obstiné. Voilà pourquoi l'amour, c'est complètement différent de la loi. Juste, vous comprenez? Complètement différent. Donc je répète, donc c'est comme la loi, c'est une barre de fer, obstinée. Vous savez, cet homme qui est, on a déjà parlé de certains serviteurs de Dieu qui étaient vraiment obstinés, il avait une tête parce que sa femme était morte. Et lui était serviteur de Dieu, c'était un pasteur. Et il était bien aimé par les fidèles, par les croyants. Et à un certain moment, Dieu a permis que son épouse s'en aille avant lui. Mais ça, lui, il ne l'a pas accepté. Il s'est obstiné. Et le frère Branham l'a dit clairement que c'est un esprit d'obstination. Et vous ne pouvez rien y faire. Faites attention. Dieu lui-même a dû le prendre. Vous connaissez l'histoire. On ne veut pas continuer là-dessus. Donc Dieu a dû le reprendre, de l'ôter de la scène afin que son âme ne soit pas perdue. Vous comprenez? Donc l'obstination, c'est terrible. C'est pas la douceur, la grâce, non. L'amour, c'est doux. Doux. Souple en français. Elle se laisse... Elle écoute, elle se laisse guider. Mais l'autre, non. Non. L'autre dit non. Voilà, vous avez compris. Parmi les croyants, Il n'y a pas de plus grande tromperie que le fait d'inclure la parole qui vient tordue selon le propre jugement. Amen, vous avez compris? Je répète, donc Franck écrit, j'ai souligné ça dans le texte, j'ai souligné quelques passages. Parmi les croyants, il n'y a pas de plus grande tromperie que le fait d'inclure la parole qui vient d'être tordue selon le propre jugement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la sincérité. Parce qu'on veut être quelqu'un. On veut être quelqu'un. C'est mieux de perdre la face et ne pas perdre le royaume de Dieu, ne pas perdre la vie éternelle, que de ne pas perdre la face et de m'éloigner de Dieu. C'est-à-dire, voilà pourquoi je dis, beaucoup, cet amour-là, le vrai amour, beaucoup ont des difficultés à le trouver. Mais les élus l'ont. Alléluia. Moi, je crois de tout mon cœur. L'Église demeure la scène où se dispute le combat spirituel. Le vrai et le faux se trouvent très proches l'un de l'autre. Cela nous rappelle d'une manière particulière l'année 1979, un cas marquant doit encore être mentionné. Lors d'une prière commune, une sœur, par une prophétie, désigna par son nom une autre sœur, prétendant qu'elle s'avance afin que l'on prie pour elle, afin qu'elle soit libérée. À la place de la sœur appelée, c'est son mari qui s'avança. C'est son mari qui s'avança. Déclarant que sa femme ne pouvait pas venir vu qu'elle était partie en voyage. Donc, représentez-vous la chose. Une prophétie arrive. Toutes ces prophéties de ses sœurs. Il y a une sœur qui dit, c'est comme ces autres prophéties qui disaient que la femme devait abandonner son mari pour être guérie, etc. Ils arrivent avec la signe du Seigneur. Imaginez. Voyez comment tout est lié. Vous comprenez le sujet, tout est relié dans ce sujet. Et si c'est encore la même chose, encore une fois. Donc si cette prophétie était vraie, est-ce que Dieu ne devait pas savoir que la femme n'était pas là dans la salle? Bien sûr. Donc, déjà, la femme elle-même, qui l'a dit, qui a prononcé cette fausse prophétie. Si un homme qui vient, cet homme qui vient, disant que son épouse est partie en voyage, ben, toi et moi, nous, on aurait eu la honte. Je pense que oui, on serait gênés, on serait vraiment dans la vergogne. Ils ont dit, non, il y a quelque chose de faux, on aurait dit, il y a quelque chose de faux. Mais là, non, regardez ce qui s'est passé. Regardez. Donc, déclarant que sa femme ne pouvait pas venir vu qu'elle était partie en voyage. Cela n'aurait-il pas été le moment favorable pour la prophétesse de venir elle-même en avant pour que l'on prie pour elle afin qu'elle soit délivrée de l'esprit d'égarement qui l'avait trompée? Les personnes qui suivent leur propre esprit, comme celles qui se laissent tromper par cela, ce qui a déjà malheureusement toujours été le cas, ont beaucoup de difficultés à croire ce qui est vrai. Donc, imaginez, représentez-vous le pourquoi. Pourquoi les pentecôtistes, disons, comment je veux dire, quand ils ont reçu les dons, donc les dons de prophétie, toutes ces choses-là, ils ont des difficultés, même si c'est faux, ils ont des difficultés, ils continuent d'aller de l'avant. Ils ont des difficultés de s'autocorriger. C'est ça la lutte qu'il y avait au temps du frère Branham, que frère Branham avait, c'est-à-dire se détacher de cet esprit-là. C'était ça la lutte avec les parleurs langues et toutes ces choses-là. Donc c'est important de comprendre aussi. Parce que le vrai paramètre, c'est moi qui le dis, c'est pas que moi je marche selon une nouvelle vie ou un peu changer. Bon. Donc, mais c'est-à-dire qu'il faut être sûr que la chose est de Dieu. Donc je continue la lecture ici. Frère Franck écrit, l'orgueil d'avoir expérimenté une onction véritable et d'avoir reçu des dons de l'Esprit ne leur permet aucun aveu d'avoir fauté. Vous voyez les erreurs dans les églises dénominationnelles? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? On a compris cela. C'est une parole d'autorité. Mais ça a toujours été comme ça. Mais voilà, c'est bien clair maintenant. On peut dire que vraiment c'est clair. C'est toujours seulement les autres qui sont appelés à se repentir. Ces personnes ne pensent pas du tout à s'éprouver elles-mêmes, parce qu'elles prétendent à l'infaillibilité pour elles-mêmes dans le domaine spirituel. Cependant, l'Écriture nous enseigne clairement, ouvrez les guillemets, « Mais éprouvez toutes choses. » 1 Thessaloniciens 5, 21. Lisons rapidement 1 Thessaloniciens 5, 21. On le relit dans nos Bibles. À partir du 19. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais éprouvez toutes choses ou examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. C'est comme avec les gens de Béret. Quand Paul prêchait tous les soirs, là, il ne faisait rien d'autre que de contrôler les Écritures dans l'Ancien Testament pour voir si ce que Paul disait correspondait. Dans l'Ancien Testament, c'est important. Alléluia. Donc, examinez toutes choses, examinez, éprouvez, que Dieu nous fasse grâce. Parce que ce qui est important, je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce qui est important, c'est la fin de la chose. Ce n'est pas le moment même. C'est ce qui va arriver après. Si c'est du bien ou si c'est du mal. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Vous avez compris ce que je veux dire. Le résultat, c'est le fruit, est vraiment de grandes bénédictions. Si c'est une réalité divine, alors là, ok. Mais sinon, ils doivent se repentir, revoir la chose. Il faut contrôler. Il faut faire attention. Alléluia. Vous voyez? Parce que le paramètre, ce n'est pas la conduite de la vie chrétienne, disons. Mais le cœur, la sincérité du cœur. Vous voyez, comme par exemple, quand on fait l'expérience de parler en langue, naturellement, le sceau du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, c'est quand tu parles en langue. Non, c'est pas comme ça, c'est pas toujours comme ça. Il est vrai qu'il y a une manifestation, mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que comme le frère Branham expliquait, voilà pourquoi beaucoup se sont arrêtés, parce qu'il y a une réalité divine, il y a vraiment une réalité divine, spirituelle, vraie, sincère. Voilà pourquoi il y en a qui se sont arrêtés. Oh, le parler en langue, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez comment ils se sont mis dans la confusion eux-mêmes? Voilà, je continue le frère Franck qui écrit ici. Mais éprouver toute chose. Même les prophètes doivent être éprouvés par toute l'assemblée. 1 Corinthiens 14, 20. Je peux vous le dire. 1 Corinthiens 14, 20. Alléluia. 1 Corinthiens 14. Donc le frère Franck qui écrit ici. Le frère Franck note 1 Corinthiens 14, 20. Donc en parlant de langues. Mais si on continue au 26, si on va au 26, et même le 29, que les prophètes parlent deux ou trois Vous voyez, même eux aussi, sont mis à l'épreuve. C'est normal. Et que les autres jugent, parce qu'il faut... Il faut que le témoignage de deux ou trois soit véridique. C'est nécessaire que ça soit comme ça. Afin que l'édification de l'Église soit vraiment sur le fondement des apôtres et des prophètes. Là où il n'y a aucune déviation. Il y a une croissance normale d'un fils et d'une fille de Dieu qui remplit les conditions de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc ça, c'est important. Donc je continue ici. Donc le frère Franck écrit que ces personnes, de telles personnes, ne se soumettent jamais à une épreuve dans l'Église. On parle ici des personnes, par exemple des dons, surtout les prophéties, et ils n'admettent jamais quand ils se trompent. Alors, parce qu'ils doivent s'arrêter normalement, ils doivent s'arrêter. Mais de telles personnes ne se soumettent jamais à une épreuve dans l'Église, car avec l'Église, il y a prétendument quelque chose qui ne va pas. Prétendument quelque chose qui ne va pas. Elles abandonnent l'Église et la méprisent après y avoir causé des dégâts. Et l'Église tombe à le bardeur, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Ils deviennent méprisés, ils nous méprisent. C'est pas comme ça, frère, c'est pas comme ça. Pourquoi? On l'a lu. Parce qu'ils ont l'orgueil. Parce qu'ils ont expérimenté un petit quelque chose, ils ont l'orgueil. Et comme il est écrit dans les Écritures, l'esprit des prophètes. C'est écrit. Je vous le dis ici, dans 1 Corinthiens 14. Il est bien écrit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça, c'est au 32, c'est écrit. Au verset 32. Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes, car Dieu n'est pas Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les assemblées des saints. Alléluia. C'est vrai, c'est biblique. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous continuons aussi. Donc je continue. Frère Franck, il dit, il est notoire que ce qui vient de l'ennemi apporte toujours avec soi la discorde et l'inimitié, lesquelles peuvent, vous avez compris ça. Regarde un peu les conditions. La situation de frères, de sœurs. Regarde un peu. Que Dieu nous aide dans notre petit parmi nous à rafraîchir ce qui est possible afin que toute chose soit soumise à l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Vous y croyez? Amen. Que ce soit dans ton cœur, dans notre cœur, dans le cœur d'un vrai croyant, d'une vraie croyante, qu'il puisse y avoir cela. Stop. C'est ça qu'il doit y avoir. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Parce que des fois, ça peut rester jusqu'à la fin si Dieu ne fait pas grâce. Donc le frère Franck écrit, ce qui vient de l'ennemi apporte toujours avec soi la discorde et l'inimitié, lesquelles peuvent demeurer jusqu'à la fin de la vie si Dieu ne fait pas grâce. Pour ceux qui ont été véritablement délivrés et révélés en la réalité que ce n'est pas seulement à Golgotha que Jésus-Christ a mis fin pour toujours à l'inimitié, mais que c'est aussi en eux-mêmes et qu'ils ont été transformés en porteurs de la paix. Éphésiens 2, 11 à 22. Ce qui est terrible, c'est que les personnes tombent sous un charme direct de Satan. Ils tombent sous un charme direct de Satan. Vous savez, quand on parlait de l'onction, regardez comme c'est important, parce que on peut avoir une onction qui vraiment vient de Dieu, qui est juste, mais il peut y avoir une onction de l'ennemi. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous pouvez discerner ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est important. Une onction qui peut venir. On le voit. On constate ça. Donc, un charme direct de Satan. Ce qui est terrible, c'est que la personne tombe sous un charme direct de Satan. Et cela, dans les deux cas. Que ce soit par une fausse prophétie ou par une fausse doctrine. Car les deux arrivent par une inspiration. Oh, vous avez compris ça. Exactement. Une inspiration. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Juste. C'est une inspiration. Et d'où elle venait? Alléluia. Vous voyez? Et après, quand on lit cela, on dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà pourquoi Dieu. Et ensuite, on va encore lire d'autres passages des Écritures après. Et ensuite, on s'arrête. Donc, je termine ici. Car les deux arrivent par une inspiration. Donc, les fausses prophéties et les fausses doctrines. Le mensonge lie les gens. Attention, faites attention aussi. Le mensonge lie les gens, c'est-à-dire les églises. J'ajoute, moi. Seule la vérité rend libre. Amen. Alléluia. Vous y êtes? Vous avez compris? Les mensonges créent des églises. Un groupe là, un groupe là, un groupe là. Et personne n'est en accord avec l'autre. Personne n'est d'accord avec l'autre. Tout le monde se sent supérieur à l'autre groupe. Donc les mensonges divisent. Mais c'est la vérité qui rend libre. La vérité rend libre. Alléluia. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je continue la lecture. De telles personnes ne peuvent être délivrées seulement lorsqu'elles peuvent reconnaître l'erreur et qu'elles demandent que l'on prie pour elles au nom de Jésus-Christ. Conformément à cette parole, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Vous y croyez à cela? Amen. Moi, j'y crois de tout mon cœur et fermement. Il n'y a pas besoin de faire des simagrées, c'est-à-dire de faire la comédie. Non, il suffit de prononcer la parole. Il suffit de prononcer la parole. Que Dieu nous donne la foi nécessaire. Amen. La foi nécessaire. Juste. Alléluia. Que ça puisse délier tous ces nœuds, tous ces liens. C'était dans Matthieu 18b. Il y a encore d'autres passages. Notre Seigneur parle aussi des faux Christ, des faux oints, qui séduisent facilement tous sans exception, y compris les élus si c'était possible. N'est-ce pas? Si c'était possible. L'avertissement pressant de notre Seigneur pour ce temps est, pour ce temps-ci, pour cette dispensation de temps dans laquelle nous vivons, est: prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, 4. Car cela aussi arrive sous nos yeux. L'onction et les dons de l'esprit des personnes charismatiques impressionnent les gens, et par leurs paroles pleines d'onction, ils sont séduits. Regardez comment le frère Franck écrit. Par leurs paroles, parce que la séduction, c'est par une onction. Il y a un esprit qui vient, il y a une onction qui est là. Et par leurs paroles pleines d'onction, ils sont séduits. Ils sont séduits par une parole. Sans une onction, faites attention. Donc, si ces paroles ne sont pas ouintes, la tromperie, sans une onction, frère Franck écrit, sans une onction, une tromperie religieuse envers un croyant n'est guère possible. Vous avez compris ça. C'est difficilement possible. Donc, voyez, une parole ouinte, pleine d'onction. Une tromperie religieuse envers un croyant n'est guère possible, sans une onction. Après la proclamation claire comme du cristal de la parole, nous avons aussi droit à l'action claire comme du cristal du Saint-Esprit. Juste, amen. N'est-ce pas? Moi, j'y crois de tout mon cœur. Nous croyons vraiment que Dieu est en train de faire des choses. Il est en train de nous donner des paroles, des indications vraiment profondes, où il n'y a pas de fanatisme, où il y a une réalité divine. Il y a une réalité divine sans fanatisme, parce que le fanatisme, c'est terrible. Le fanatisme, c'est terrible. Il faut sortir de ce fanatisme pour vivre comme fils et filles de Dieu libres, pour servir Dieu en esprit, en vérité, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a communion les uns avec les autres. Tous, les uns avec les autres. Matthieu 24, 45, les serviteurs de Dieu, les frères, dans les communautés, partout, partout, qui sont par-ci, par-là, en communion, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. N'est-ce pas? Ça, c'est juste. Ça, c'est la réalité. Amen. Sans fanatisme, mes amis. Alléluia. J'ai dit que je voulais lire des passages. Psaume 129, psaume 139, 23. Psaume 139. Psaume 139, 23. Alléluia. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Psaume 139, 23. On peut commencer au 22. Il faut lire le contexte. Enfin, je l'ai. Et d'une haine parfaite, c'est-à-dire extrême. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. On veut le faire ce soir encore. Et aussi demain, et après-demain. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, chacun doit demander cela, afin qu'on soit en syntonie, en harmonie parfaite avec l'Esprit Saint, avec la parole de Dieu. Alléluia. Pas avec une onction méchante, mais avec une vraie onction. Vous voyez? Ça, c'est important, ça. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde s'il y a en moi quelques voies de chagrin, quelques voies iniques, et conduis-moi dans la voie éternel. Amen. Vous voyez les paroles profondes? Amen. Sonde-moi. Regarde à l'intérieur de moi. Tu sais comment je suis fait. C'est toi qui m'as donné le souffle de vie. Tu sais comment je suis créé. Tu sais comment je suis. On ne peut pas fuir à la pensée de Dieu, au regard de Dieu. Il connaît la fin avant le commencement. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Amen. 1 Corinthiens, très important aussi, 1 Corinthiens 11, 31, vous pouvez approfondir cela tout seul, 1 Corinthiens 11, 31, ici on parle de la Sainte Seine, 1 Corinthiens 11, 31, regardez, mais... Regardez au 30. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades. Faites attention parmi vous. Regardez bien. Et beaucoup, et qu'un assez grand nombre, dorment. Ne sont pas morts, ils dorment. Vous êtes, vous comprenez? Mais si nous nous jugions, ou si nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est écrit. Mais... quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Encore une fois, le secours de Dieu, la grâce de Dieu. Vous voyez pourquoi des fois on est dur, l'entendement dur, on est dur de cœur. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Encore une fois, examinez-vous, éprouvez-vous, examinez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, faites l'expérience de vous-même, que Dieu nous aide. On n'a pas le temps de parler de tout cela. Parce que quand il y a le premier amour, quand il y a le premier amour, je vous garantis, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, on fait l'expérience de soi-même. On rentre en soi-même. Qui l'a éprouvé? Qui l'a vécu? Moi, je l'ai vécu. Et celui qui l'a vécu, il le reconnaît. C'est important de savoir si on est dans la main de Dieu ou si on est dans la main de mes inventions mentales, cérébrales. Si c'est des inventions. Si c'est une réalité divine, si c'est vrai, alors c'est quelque chose que je n'invente pas. Ou bien c'est quelque chose que j'invente. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous-même, ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous. Il y a un autre merveilleux passage de Romains 8, 27. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse nos cœurs ce soir. Amen. Romains 8, 27. Et celui qui sonde le cœur sait quelle est la pensée de l'esprit. Vous voyez pourquoi? Même une petite hypocrisie. Quand on n'est pas sincère, quand il n'y a pas la sincérité profonde, Dieu le voit. L'Esprit Saint voit. Donc Dieu nous connaît parfaitement comment nous sommes à l'intérieur, même dehors aussi, mais comment on est à l'intérieur. Parce que l'extérieur, c'est la chair qui va mourir. Mais ça s'en va lentement à la dérive. Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, tu mourras. Et Dieu ne change pas sa parole. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. Donc Dieu nous vient en aide. Et quand Dieu nous vient en aide, c'est quelque chose de glorieux, mes amis. Quelque chose de merveilleux. Amen. Donc, comme il est écrit au verset 26, l'Esprit nous vient, nous est en aide dans nos infirmités. Comme il est écrit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Amen. Pour quiconque se trouve dans les mains de Dieu, sous le contrôle de la parole de Dieu. Cette parole, c'est pour nous, pour ces personnes-là. Amen. Vous voyez? À Dieu soit toute la gloire. Amen. Les choses que Dieu a établies ne peuvent pas être anéanties. Voilà pourquoi. Dieu, ça c'est le triomphe de Dieu. Je termine avec ceci. À travers Luther, il est vrai, il y a toujours eu la gloire de Dieu, bien sûr. À travers Wesley, vous voyez les âges de l'Église, les différents réveils, les différents mouvements qu'il a eu. Mais dans cette dernière dispensation, dans ce dernier temps que nous vivons maintenant, que ce message, l'enseignement, la parole nous prépare à la venue de notre Seigneur. Ça, c'est quelque chose de glorieux au maximum, au-dessus de tout cela. C'est le triomphe de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ, pour l'épouse de Jésus-Christ. Quand il a dit à Abraham et à sa semence, si tu pouvais compter les étoiles ou bien le sable, c'est nombreux, un peuple nombreux, mais la promesse, c'est à travers Isaac. Est-ce que c'est pas glorieux cela? Donc on ne sera pas deux ou trois. Il y aura là l'ensemble de tous les vainqueurs. Ce sera le fils mâle, ce qu'on appelle le fils mâle, qui sera enlevé. Mais ça, ce sera un nombre complet, un grand nombre. Ce ne sera pas un ou deux individus. Ce n'est pas une petite assemblée, mais l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous visite, nous fait grâce et nous fait aller de l'avant. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour cela. Parce qu'il nous donne du sien, il nous fait beaucoup comprendre les choses. Et on peut tout, on peut garder cela dans nos cœurs, sceller cela, comme si c'était quelque chose dont tu ne peux plus te passer. Amen. Alléluia. Maintenant, il est tard, il est 21h47. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur. S'il y a des frères qui veulent prier, qu'ils soient libres de prier. Il y a aussi le frère Wilfried qui est là. Ah, lui, pas français. Je crois qu'il vient de partir. Voilà, il vient de partir. Qui veut remercier le Seigneur? Alléluia. Jérémy aussi est parti parce que déjà 10h20. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions de tout notre cœur. Parce que tu es Dieu d'amour, de paix, de joie, de justice. Et ta parole nous réconforte. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tes bénédictions. Protège-nous de tout mal, de tout ce qui nous entoure. Il y a beaucoup de mal autour de nous, Seigneur. Fais-nous grâce de nous protéger avec ta bénédiction, avec ta paix. Donne-nous toujours la sagesse, Seigneur. Soutiens-nous dans la vie, dans nos problèmes, au travail, dans toutes choses. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est une époque mauvaise, mais aussi c'est une époque merveilleuse. Et nous voulons participer à cette époque de l'enlèvement. Merci pour les frères et sœurs. Bénis, Seigneur, nos vies. Accompagne-nous dans toutes choses de notre vie. Qu'elle puisse être à toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Que nous puissions te louer. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Donne un bon repos à tous les frères et les sœurs. Nous te remercions pour toutes choses. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Bonne année à toutes. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen.